enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Tournez avec moi dans la parole de Dieu au livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament. Prenez vos Bibles. Prenez votre Bible. Quelqu'un m'a fait remarquer que, parce que les versets sont sur l'écran, il y a de plus en plus de gens qui font simplement laisser les Bibles à la maison. Tournez-vous vers quelqu'un à côté de vous et dites-lui, je sais que c'est pas ton genre. Dites ça à la personne près de vous. Ceux qui n'ont pas leur Bible en ce moment, on va faire un appel à la repentance. Vous allez... Non, amenez... il faut que vous veniez avec votre Bible, que vous regardiez les versets. Il y a quelque chose de spécial à trouver. Les versets vous-même, dans votre Bible, comme dans le bon vieux temps, n'est-ce pas, les vieux chrétiens? Alors, les versets sur l'écran sont simplement pour vous aider, mais il est bon que vous regardiez vous-même dans la parole de Dieu. Partagez votre Bible avec quelqu'un près de vous. Et nous sommes dans le livre de Néhémie. Souhaitez la bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin. Chaque dimanche, j'ai des invités. Cette semaine, un couple de France, un pasteur, son épouse de France, qui m'ont dit qu'ils étaient pour être ici ce matin. Et il y a une petite délégation africaine de Côte d'Ivoire qui est ici aussi ce matin. Et je pense que le pasteur Roger Berg, qui est un pasteur à Toronto, qui est pasteur à l'église Queensway Cathedral et qui est marié avec la sœur de pasteur Mark, c'est le beau-frère de pasteur Mark. Je pense qu'il est ici. Est-ce qu'il est ici, pasteur Roger? Are you here? Complètement. Ça, c'est un pasteur. La dernière rangée possible, complètement à l'arrière. Et son épouse Janice, would you stand? Est-ce qu'ils peuvent se laisser? Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue? Ça nous fait plaisir de les voir. Welcome to Nouvelle Vie. Alors que nous entrons dans cette série, que nous sommes à la deuxième partie de cette série, la génération Néhémie, cette clé afin de rebâtir en ce 1er mai 2005, je ne me souviens pas avoir été dans ma vie et ministère comme pasteur, d'avoir été aussi motivé, enthousiasmé, encouragé, excité et enthousiaste. Écoutez-moi bien, il y en a entre vous qui disent, Pasteur Claude, on te connaît depuis quelques années, tu as toujours eu un certain niveau d'enthousiasme quand même. Mais rien comparé à ce qui est dans mon cœur en ce moment. Lorsque je regarde à cette série de messages, lorsque je regarde à vous, cette église, cette salle ce matin, lorsque je regarde à l'équipe que Dieu a réunie, lorsque je regarde à tout le potentiel que nous avons ensemble, à l'accomplissement, lorsque je regarde au momentum des dernières semaines et mois, alors que de semaine en semaine, il y a tellement de gens nouveaux qui se joignent à nous. Lorsque je regarde à des gens de partout à travers la francophonie qui sont réunis ici ce matin, lorsque je regarde aux centaines qui sont ici pour être en formation, pour servir le Seigneur, j'aimerais vous déclarer, je ne suis pas un prophète, mais j'aimerais vous déclarer, vous prophétiser en vous regardant dans les yeux que nous allons toute notre vie nous souvenir du printemps 2005 comme un moment spécial de Dieu, un moment Néhémie où nous allons bâtir et rebâtir et voir des choses merveilleuses. Avant que j'explose, dites Amen. Et voulez-vous applaudir le moment que nous vivons ensemble. This is a great day. Nous avons débuté un message la semaine dernière et j'aimerais simplement savoir combien d'entre vous, juste pour savoir, combien d'entre vous n'étaient pas là dimanche matin passé. Soyez pas gênés de vous, regardez comme il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui n'était pas là, dites-lui, je suis certain qu'il va récapituler juste pour toi. Dites ça à la personne à côté de vous. Je ne ferai pas, je vous l'avertis à l'avance, je ne ferai pas dans les prochaines semaines une récapitulation, à chaque fois on peut pas, mais le deuxième message d'une série, c'est important d'essayer de ramener tout le monde, de rallier tout le monde, que tout le monde, on puisse s'en aller dans la même direction. Le message s'intitule « La génération Néhémie », c'est un appel à ce qu'aujourd'hui nous puissions prendre notre place dans la génération Néhémie. Un genre de peuple, un genre de personne, un genre de croyant, la génération Néhémie et cette clé afin de rebâtir. Et on va regarder ensemble quelques instants, simplement pour ramener tout le monde, probablement quelques 200 personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. Qui est Néhémie? Quel est son message? Nous avons vu ensemble que son nom veut dire la consolation de Dieu. Que Néhémie, son nom signifie la consolation de Dieu. Son message, c'est être rebâti, être consolé, être aidé par Dieu, être reconstruit par Dieu afin de rebâtir d'autres. L'appel de Dieu sur chaque être humain d'être rebâti par lui, être consolé, fortifié par Dieu afin toujours de devenir quelqu'un qui rebâtit. C'est notre appel sur nous individuellement, Mais c'est aussi l'appel qui est sur nous en tant qu'Église. À chaque jour, être rebâti, mais jamais comme une fin en soi. Jamais simplement afin d'être béni, mais rebâti afin d'aller en mission pour rebâtir d'autres. Il est un conseiller gouvernemental pour le roi de Perse, et qui était la puissance dominante de son époque. Il était dans le palais du roi, il avait un poste de conseiller à la droite du roi. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire, il était une fois qui se finit par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un vrai personnage historique, il y a beaucoup de livres d'histoire qui authentifient, on peut même faire la date précise, c'est un personnage historique, authentique, un récit d'un homme qui prend place 444 ans avant Jésus-Christ. C'est un homme, Néhémie, qui représente beaucoup d'entre nous d'une manière, et je vous parle de ce moment particulier du mois de mai 2005. Un homme à un carrefour de décision pour sa vie et qui va avoir un impact éternel. Un homme, un portrait de la puissance du consolateur et du peuple consolateur. J'aimerais vous proposer que Dieu, le Saint-Esprit, est le consolateur, mais que le consolateur, dans toute sa puissance et ses promesses, ne peut se manifester que lorsqu'il y a un homme comme Néhémie, comme vous, comme moi, une femme qui se lève, la puissance du consolateur se manifeste, s'incarne seulement lorsqu'il trouve quelqu'un qui répond à l'appel d'être le peuple consolateur. Un homme appelé par Dieu à sortir de sa zone de confort, de ce qui lui est familier, afin de rebâtir. Néhémie devra faire face à des choses intimidantes. Vous lirez le premier chapitre à la maison. Il est un conseiller du roi et il doit aller demander, il doit aller devant le roi, il sort de sa zone de confort. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le roi avait pouvoir de vie ou de mort. La Bible nous dit que même lorsqu'il est arrivé devant le roi, il était tellement préoccupé et avait tellement un fardeau à cœur de voir, il entend parler, on va lire dans un instant, que les murs sont abattus. Il est appelé à rebâtir ceux qui souffrent. Et il veut quitter le palais pour aller le faire, quitter sa zone de confort pour aller le faire. Et alors qu'il se présente devant le roi lui dit, « Je vois que ton visage est triste. » Et vous avez besoin de comprendre que dans l'Ancien Testament, ces rois avaient pouvoir arbitraire et souvent très volatile, de vie et de mort sur lui. Ça pouvait être interprété, juste le fait qu'il avait le visage préoccupé par d'autres choses. Le roi, il y a toutes sortes de récits historiques qui rappellent des incidents comme ça. Le roi aurait pu le mettre à mort parce que tu es préoccupé par d'autres choses que moi. Le roi avait tout pouvoir sur lui. Et lorsqu'il se présente, lorsqu'il arrive dans ce moment de sa vie à une décision, lorsqu'il arrive à un moment d'aller vers ceux qui souffrent, Néhémie représente ce peuple qui est prêt à sortir de sa zone de confort afin de bâtir quelque chose qui est éternel. Je vais vous encourager à entrer avec nous dans la génération Néhémie dans les prochaines semaines. Et si vous pouvez le faire cette semaine, de lire le livre de Néhémie. C'est seulement 13 chapitres, ça prend moins qu'une heure. J'aimerais que vous lisiez une fois au complet. Et que vous lisiez régulièrement, plus spécifiquement, les chapitres 1, 2 et 4, 5, 6 et 8. Parce que dans ces récits, dans ce chapitre-là, vous allez trouver l'histoire, le récit. Ces chapitres sont entrecoupés de détails qui ne sont pas nécessaires de lire à chaque semaine. Mais si vous voulez bien lire les chapitres 1, 2 et 4, 5, 6, 8 à la maison et de prier pour un esprit de révélation, j'aimerais simplement vous inviter à sauter dans le match. Saute sur la glace. Embarque dans le game. Lorsque j'étais en Floride récemment, on était à un match de basketball, c'était le Heat qui jouait, et partout il y avait des posters, des affiches, et tout le monde disait « Feel the Heat! » Sans la chaleur de qu'est-ce qui se passe. J'étais saisi de voir, c'était un match de basket, je ne vais pas dire que c'est pas important, mais c'était un match de basket, et alors que je regardais ça, j'étais saisi, j'étais dans une section où tu avais toutes sortes de monde, tu avais des jeunes, tout ça, mais tu avais aussi des gens d'affaires, des gens de tous les âges, qui sautaient, trépignaient, criaient, menaçaient de mort l'arbitre. Là, je vous parle de ma femme qui est avec moi, qui prend ça vraiment à cœur. Et vers la fin, vers le dernier quart, il y avait un gars à côté de moi, puis genre homme d'affaires, j'en avais entendu parler avec son comparse qui avait ils ont une compagnie de construction ensemble, puis ils parlaient de tous leurs projets, etc. Puis il arrêtait pas d'appeler un certain gars, il disait O'Neill, tout le long, pendant 30 minutes, O'Neill, qu'est-ce qu'il veut du joueur, parce que les joueurs étaient pas si loin que ça. Et finalement, à la fin, O'Neill se revient, il le regarde, puis il dit You're headband. Alors le joueur a pris son bandeau, imbibé de quatre quarts de basketball, puis il lui a donné comme une affaire précieuse. Et l'autre, il avait aimé comme s'il y avait un holy shrine, il avait trouvé l'arche perdue, il y avait la, Il était là, puis je l'ai vu s'en aller avec la headband du joueur, comme si « feel the heat ». Est-ce que je peux vous dire que nous sommes impliqués dans quelque chose d'un peu plus important qu'un bandeau de soir ou un match de basket? Nous sommes appelés à reconstruire des êtres humains et à bâtir le royaume de Dieu ensemble. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Dites à quelqu'un près de vous, « feel the heat ». Dites ça à quelqu'un près de vous. Ce que nous allons découvrir dans cette série, comment rebâtir notre vie personnelle, nos émotions, notre équilibre psychologique ou émotif, et des clés dans l'ennemi sur comment nous pouvons être rebâtis, comment rebâtir notre couple, nos relations interpersonnelles, notre vie spirituelle, même notre appel ou notre vision. Nous allons voir des clés puissantes de combat spirituel. Ne manquez pas un message dans les prochaines semaines. Nous allons voir un portrait extraordinaire de l'œuvre du Saint-Esprit. S'il y a des personnages de l'Ancien Testament, comme Moïse ou comme Josué, qui sont des portraits de Jésus-Christ, Néhémie est un portrait extraordinaire de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans les prochains dimanches, vous allez avoir un message qui, à travers Néhémie, vous allez découvrir la puissance et l'œuvre de l'Esprit active dans nos vies aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble dans cette série de messages comment être délivré de la honte, des insécurités, de sentiments de rejet ou de jalousie qui nous dévorent et nous paralysent. Ce qui nous semble sans importance, mais qui est de suprême importance pour Dieu, des secrets spirituels extraordinaires. Comment réaliser nos rêves et accomplir notre vision? Parce que Néhémie, dans sa forme la plus pure et fondamentale, c'est quelqu'un qui va entendre la voix de Dieu et qui va accomplir. Il va réussir, malgré son humanité, ses faiblesses et ses échecs. Le récit de Néhémie, c'est pas un récit hollywoodien de quelqu'un de parfait qui ne chute jamais, qui n'a jamais de difficulté et qui va de nuage en nuage. C'est quelqu'un très humain, plein de faiblesses, des échecs, des moments où il pensait que tout était fini. Mais nous allons découvrir à travers les clés de Néhémie, à travers cette génération Néhémie, cette clé ensemble, sur comment nous pouvons, quel que soit l'échec que j'ai connu, recapturer et accomplir les rêves que Dieu a mis dans mon cœur. Notre texte de départ est dans Néhémie chapitre 1. Il faut regarder dans vos Bibles à Néhémie le premier chapitre. Et les versets 1 à 4. Et si vous n'avez pas votre Bible, le texte va apparaître sur l'écran. Parole de Néhémie, fils de Kalia, au mois de Kisleu, les années, le lieu qui était là, alors que j'étais à Zuz, dans la capitale, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province. Ils sont au comble du malheur. Ils sont dans la honte, dans la douleur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Néhémie raconte son histoire et dit, « Lorsque j'ai entendu ces choses, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai été plusieurs jours dans la tristesse, mais j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. » La parole de Dieu nous dit que sa prochaine étape a été de s'engager dans ces 7 clés afin d'être rebâti et de rebâtir. Nous avons vu la semaine dernière, ce que nous récapitulons ce matin, que la première clé afin que je puisse, moi, être rebâti, afin de pouvoir rebâtir d'autres, est une clé que nous appelons une clé d'espoir et d'engagement. Comprenez le contexte de Néhémie. Le peuple avait été amené, ses contemporains avaient été amenés captifs sous Nébuchadnezzar 150 ans auparavant. Ils avaient abandonné Dieu, s'étaient éloignés des choses de Dieu, et alors qu'ils avaient délaissé Dieu, s'étaient retirés de la protection de Dieu, l'envahisseur, l'ennemi est arrivé, les a amenés en captivité babylonienne, et l'ennemi a fait en sorte, Jérusalem a été détruit, l'ennemi s'est acharné à démolir chaque pierre, chaque édifice, la ville entière était à feu et à sang, et Jérusalem avait été brûlée par le feu. C'est comme si l'ennemi avait fait en sorte, voulait qu'il n'y ait aucune chance que ça se relève. Aucune chance qu'il y ait une possibilité que tu puisses te relever. Tu es à terre, tu ne te relèveras jamais. Et les années passent, les décennies passent, et après un certain nombre d'années, le peuple est permis de revenir. Ils avaient été en captivité, et lorsqu'ils reviennent, il y a un début de restauration avec Dieu qui prend place. Il y a un temple qui est en ruine qui est là, mais ils reviennent, il y a une adoration qui est là, il y a un recommencement de la foi, un peuple qui revient. Et alors qu'ils reviennent, il y a un portrait saisissant qui émerge. 100 ans auparavant, il y a une première vague qui est revenue, et après ça, une deuxième vague, des milliers qui sont revenus à Jérusalem. Il y a un temple qui est là. Avant, ils étaient idolâtres, maintenant, ils se tournent vers Dieu. Ça représente chacun d'entre nous qui est venu donner notre cœur au Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Nous venons au temple de Dieu. Mais il y a un portrait saisissant, celui d'un temple déchu au milieu des ruines de la destruction. En d'autres mots, ils sont venus, ont recommencé à marcher avec Dieu alors qu'avant, ils avaient leur dos tourné à lui. Mais les années et les années et les années passent et eux ne sont jamais reconstruits. Il n'y a pas de victoire. Il y a un temple qui est là, il y a des chants, il y a une louange, mais il n'y a pas de victoire. Je pourrais dire de cette façon, il y a une naissance de l'Esprit, mais il n'y a pas de fruit de l'Esprit en eux. Il y a, pour prendre notre contexte chrétien moderne, il y a un commencement en Christ, mais il n'y a pas de conformité à Christ. Ils ne sont pas changés, ils ne sont pas transformés. Il y a un certain vécu, je suis là, mais il n'y a pas de victoire. Tout est en ruine. Le temple est là, mais il est au milieu de la déchéance. Je pourrais dire de cette façon, il y a un retour, mais il n'y a pas de restauration. Il y a la parole dans leur vie, mais il n'y a jamais de plénitude. Il y a une certaine ouverture, mais il n'y a pas d'ordre, pas d'onction. Leur vie est continuellement en désordre. C'est le chrétien qui est là depuis des années. Il y a toujours des captivités qui le lient. Il y a toujours des comportements qui sont complètement contraires à ce que Dieu voudrait de lui. Il y a toujours des émotions qui sont charnelles et qui sont sans maturité, qui sont enfantines et qui sont destructives. Il y a toujours des impulsions qu'il n'est pas capable de contrôler. Il y a des prières, mais il n'y a pas de puissance. Il y a des petits pas, mais il n'y a pas de vrai progrès. Il y a une certaine démarche spirituelle, mais il n'y a pas de délivrance surnaturelle. Il y a des rituels, mais il n'y a pas de réveil. Il y a une invitation perpétuelle. Il y a Dieu qui les invite toujours, mais l'Église, parce qu'elle est en ruine, même si elle a un temple, si les membres, les personnes de l'Église sont en ruine personnellement, l'Église n'a aucun impact sur la population autour. Il y a une miséricorde, ils ont reçu la miséricorde de Dieu. Il y a un rituel, mais les murailles sont en ruine. Et Dieu est incapable de tolérer, comprenez bien, Dieu est incapable de tolérer, de voir ceux qui représentent son nom être eux-mêmes un temple, parce que Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que j'habite en vous. Dieu est incapable de voir ceux qui le représentent sur terre. Son amour est tellement grand pour ceux qui ne le connaissent pas que Dieu est incapable de voir ceux qui le représentent, incapable de tolérer cette situation. Tolérer que leur manque de victoire, leur manque de vie, leur manque d'ordre, leur manque de joie, d'effervescence, d'enthousiasme, de liberté, puisse faire en sorte qu'ils sont isolés et ignorés du monde qui les entoure. Alors Dieu fait résonner sa voix et il appelle un ennemi à dire, le temple est là, mais au-delà du temple qui est là, les murs sont abattus et je t'appelle à y aller pour les rebâtir. Je t'appelle à cette génération d'ennemis, bâtir, être rebâti, afin de rebâtir. Néhémie est à Susse, c'est la capitale de la Perse. Il est à 1600 kilomètres de là. Il est dans ce qu'on appellerait l'Iran moderne. Il est le consolateur de Dieu, appelé à être rebâti afin de rebâtir. La question de Dieu pour vous, c'est où êtes-vous aujourd'hui spirituellement? Êtes-vous prêt à saisir la clé de l'espoir et de l'engagement? Il n'y a pas de reconstruction à moins qu'habite en toi un espoir à chaque jour. Dieu est capable de me rebâtir. Et Dieu veut faire de moi quelqu'un qui va rebâtir les autres. Dieu est capable de me rebâtir moi. Je refuse d'être un temple, parce que ma vie est un temple devant Dieu, qui va être perpétuellement en ruine. Il y a quelques chants, il y a une louange, mais il n'y a jamais une victoire véritable. Il n'y a jamais un véritable témoignage. J'étais récemment, chantais moi avec des gens, des chrétiens, puis dans la même soirée, on parlait de... C'est des gens qu'on a des amis communs. Et puis dans la même soirée, il y avait ces deux mentions qui ont été faites. Puis j'étais couché le soir après, et même ce matin, je pensais, juste dans la même conversation concernant deux couples qui sont venus au Seigneur dans les mêmes années, une quinzaine ou vingtaine d'années, ou un peu plus, qui sont venus au Seigneur il y a longtemps. Deux couples qui n'étaient pas du tout, connaissaient rien aux choses de Dieu, qui avaient un vécu, qui étaient complètement hors des choses de Dieu, qui avaient une vie mouvementée avant avec toutes sortes de choses difficiles, qui sont arrivés à l'Église, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont commencé totalement à zéro. Ça, c'est une Bible, page 1, qui ne savait rien de Dieu. Et pendant la soirée, il y avait un moment, puis ça n'a pas été longtemps, c'est juste une mention. Il y avait quelque chose qui était terriblement, puis je n'ai pas tout dit ce qu'il y avait sur mon cœur. Mais alors qu'il y avait une mention d'un de ces couples-là qui, des années et des années plus tard, sont toujours au temple, à quelque part, toujours en train de servir Dieu, mais il semble qu'il n'y a jamais eu de reconstruction dans leur vie. Ils sont perpétuellement écorchés, perpétuellement blessés, perpétuellement blessants, perpétuellement charnels, perpétuellement immatures dans comment ils parlent, vulgaires dans leurs propos. Toujours attaquant quelqu'un, toujours... Et quelque chose de tellement, tellement déchirant. Il y a quelque chose en moi qui disait, comme ils sont malheureux, des années plus tard, c'est ça leur vie chrétienne. Il y a un temps, mais tout est en ruine. Toujours des émotions, toujours des colères, toujours des critiques, toujours des murmures, toujours des crises, toujours des choses banales comme font un événement sportif chrétien ensemble, il est en train de vouloir puncher quelqu'un, il y a un événement qui sort du coup, il y a un fou de rage pour une game de softball. Puis il y avait quelque chose qui me bouleversait, c'est que maintenant, leurs enfants, qui sont des ados et des jeunes, sans savoir ce que leurs parents étaient à 20 ans, leurs enfants sont exactement dans les mêmes patterns. dans l'Église, 14-15 ans, déchiré, malheureux, agressif, révolté. Il y a un temple, et tout est en ruine. Et dans la même, ça a duré juste quelques instants, et moi, c'était passé dans ma tête, dans mon cœur. Dans la même conversation, on a parlé d'un couple qui s'est converti en même temps. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes, mais qui, au-delà de simplement avoir un temple, Dieu a permis, ils se sont donnés, ont eu cette grâce d'être rebâtis par le Seigneur. On parlait de leur maturité, on parlait de leur amour, ils ont passé plein d'épreuves. Partout où ils sont allés, ils sont une bénédiction. Il y a des gens comme ça dans l'Église que tu veux être avec eux. Quand tu passes le temps de Dieu, tu veux être avec eux. Parce que d'être avec eux t'encourage. Pas capable de me souvenir un moment où est-ce qu'il a dit une parole négative contre qui que ce soit. Toujours une parole édifiante. Ses enfants aiment le Seigneur. Et j'étais touché parce que dans mes propres enfants ont reçu de l'aide et du soutien et de l'encouragement de ses enfants. Comme eux, là, 10 ans, 15 ans, est une source d'encouragement et le sont encore. Leurs enfants grandissent là-dedans. Leur vie est une bénédiction. Leur cœur est une bénédiction pour Dieu. Puis il y avait quelque chose en moi dans la prière ce matin qui disait, Seigneur, t'as pas de favori. Ce n'est jamais ton intention que quelqu'un soit un temple qui reste en ruine pour toujours. Et par la grâce de Dieu, je vous appelle ce matin à dire, je refuse ces portions de ma vie qui sont en ruine, je vais être rebâti afin de rebâtir d'autres. Et si c'est votre désir, quelqu'un devrait dire amen ce matin. Espoir. Espoir et engagement, chacun pour nous-mêmes, les serviteurs, travailleurs, chacun devant sa maison. Néhémie 3, 28 à 30. Chaque personne pour lui-même. Chaque personne responsable du temple de votre vie. Dieu dit, tu es le temple de mon esprit. L'habitation de Dieu. Tu me représentes. Tu es celui en qui j'habite. Et chacun travaillait selon, devant sa maison, devant sa chambre. Chaque personne responsable pour lui-même. Lorsque vous lisez Néhémie, une des choses qui vous marque, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il y avait une tâche qui était immense à faire, mais il y avait un appel personnel à des individus. Et Dieu, lorsqu'on lit la Bible parfois, parce que je parlais dans l'intro, qu'une des choses que Néhémie nous révèle, c'est des choses qui sont importantes pour Dieu, qui nous semblent sans importance à nous. Lorsque, si vous lisez Néhémie, cette semaine, si vous répondez à l'invitation que je vous ai lancée, vous allez vivre un grand moment de tentation. Vous allez lire le chapitre 1, lire le chapitre 2, et lorsque vous allez arriver au chapitre 3, vous allez voir une série de noms imprononçables. Et vous allez être fortement tenté de faire le saut en longueur au chapitre 4. Et tout le monde se pose la question, pourquoi? J'en ai juste pris quelques-uns, je vous le dis, il y en a des dizaines et dizaines d'autres. Je vais les lire, ils vont apparaître sur l'écran. Faites attention de ne pas être trop béni, il y en a peut-être qui vont tomber sur le dos pendant que je vais les lire, des vagues de gloire. Et tout ce que ça dit, c'est que chaque personne s'occupait de sa maison, chaque personne travaillait. Tous ceux qui se sont engagés à rebâtir. Écoutez bien cette description et soyez bénis. Zaccur, fils d'Émeri. À chaque fois, on va dire le fils de qui pour être sûr, c'était le bon Zaccur parce qu'il y avait plusieurs Zaccurs. Il y avait des fils de Séna, il y avait Mérimoth, qui était fils d'Uri, fils d'Aklot. Meshulam, fils de Berikia, fils de Meshézabel, Tzadok, Jojada, Melatia, Mispa, Uziel, Anania. C'est un peu comme un rap. Réphaja. Anun, Zonak, Binoui, Akabra, pas Abracadabra, Akabra. Chacun travaillant devant sa maison, chacun rebâtissant sa maison afin de rebâtir d'autres. Pourquoi, Seigneur, que 2500 ans, tu les as inspirés afin qu'on lise encore leur nom 2500 ans plus tard? Ces personnes-là se sentaient complètement... Pourquoi leur nom? Je suis juste une personne qui a entendu l'appel de Dieu, puis je vais rebâtir moi aussi. Je m'engage à la tâche de rebâtir. Pourquoi leur nom doit être lu 2500 ans plus tard? Parce que chaque être humain est appelé à quelque chose qui est éternel, à quelque chose qui ne sera jamais oublié, à quelque chose qui va durer pour toujours. Si on lisait Néhémie en 2005, ce principe en 2005, Dieu dit, chacun des noms, moi je connais tout de lui ou d'elle. Je connais son histoire, je connais son passé, je connais son présent, je connais les murs secrets qui sont démolis en lui que je veux rebâtir. Si on lisait en 2005, on lirait Michel, Linda, Sylvie, René, Dan, mettez votre nom. Dan, Isabelle, François, Lina, Raymond, Christiane, Marc, Sue, Robert, Muriel, Jonathan, Déborah, Claude, Ginette, Alain, Sophie, André, Daniel, Marion, Alain, Philippe, Gérald, Françoise. Philippe, Réa, Sonia, Sylvain, Jacqueline, Luc, Jonathan, Sandrine, Marie-Josée, Claude, Chantal, Luc, Stéphanie, Jocelyn, Guylaine, Judy, Richard, John, Sylvie en Haïti, Michel et Louise en Haïti, Gaétan et Jacinthe au Sénégal, nos missionnaires. Chacun travaillant devant sa maison. Chacun rebâtissant sa maison afin de rebâtir d'autres. Chacun prenant sa part dans la génération Néhémie. Pourquoi tous ces noms? Pourquoi tous ces noms? Parce que chacun est précieux devant Dieu. Chacun est précieux. Il veut te rebâtir, toi. Chacun est appelé par Dieu à rebâtir. Chacun est capable devant Dieu. Et chacun est responsable devant Dieu de répondre à cet appel. C'est pourquoi, si on va au-delà du témoignage que j'avais préparé, je veux simplement vous amener à cet appel en ce début de message. Je vous appelle à l'espoir et à l'engagement ce matin. Je vous appelle à faire partie de la génération Néhémie. Et le livre commence avec « Parole de Néhémie ». Le premier, et la date est donnée. Alors, je veux simplement qu'on entre dans cette série ensemble en disant « Parole de », et que votre nom soit là. « Parole de Claude », « Parole de Chantal », quel que soit votre nom. « Parole de », avec tout mon cœur, je viens ce matin. Le 1er mai 2005, je me suis arrêté, j'ai prié, j'ai décidé d'être rebâti afin de rebâtir et je m'empare de la clé de l'espoir et de l'engagement et que toute la génération Néhémie qui est prête à faire ce premier pas dise « Amen » dans ce lieu ce matin. Et à l'avance, voulez-vous applaudir ce qui va arriver, ce qui va prendre place de miraculeux et de surnaturel. Clé d'espoir et d'engagement. Clé numéro 2, une clé d'enthousiasme, parce que nous sommes appelés à une équipe. Il y a une clé pour rebâtir. Premièrement, une clé d'espoir. Je garde toujours l'espoir que je peux être rebâti afin de rebâtir d'autres. Deuxièmement, une clé d'enthousiasme, parce que nous sommes appelés à une équipe. Le mot enthousiasme est un mot extrêmement intéressant. Si vous prenez un dictionnaire comme le petit Robert ou le Webster en anglais, enthusiasm. Le mot enthousiasme vient de deux racines de mots. En, qui veut dire à l'intérieur, de vivant dedans, et théos, qui veut dire Dieu, divin. Enthousiasme veut littéralement dire en théos, en Dieu, avec Dieu vivant à l'intérieur. Est-ce que je peux vous dire que si Dieu vit à l'intérieur de toi, il y a un enthousiasme qui est là. Je veux également vous proposer une des raisons pour lesquelles le Québec a un des plus hauts taux de suicide au monde. C'est qu'il y a des multitudes et multitudes et multitudes de jeunes qui n'ont aucune compréhension de Dieu à l'intérieur d'eux. Et que sans Dieu, sans une pensée, une réalisation, une conscientisation, une confiance en un Dieu vivant qui te donne espoir, qui te donne victoire, qui a des plans pour ta vie, lorsque la souffrance, lorsque tu traverses des périodes de souffrance, tu peux arriver à un moment où tu veux, s'il n'y a rien d'autre, il n'y avait rien avant, il n'y avait rien après, au moins en m'enlevant la vie, je vais arrêter ma souffrance. Je veux déclarer à chaque jeune qui est ici qui a déjà considéré le suicide, ou à chacun d'entre vous qui connaissez quelqu'un qui l'a fait, je veux déclarer que en Dieu, que en Théos, que si tu permets à Dieu de vivre en toi, il n'y a pas de possibilité que tu considères une telle chose, parce que le Dieu de l'univers entier te prend, te porte, te soutient, il marche en avant de toi, il marche derrière toi, il marche devant toi, il y a un espoir pour toi, il y a un courage pour toi, il y a toujours une réponse, il peut toujours te relever. Dites amen avant que j'explose, il peut toujours te libérer. Enthousiasme parce que Dieu vit à l'intérieur de moi. Si vous lisez le dictionnaire, la définition est extraordinaire. Le petit Robert dit enthousiasme, c'est transport, une des définitions, transport divin. État de l'homme qui est soulevé par une force qui le dépasse et qui se sent capable de créer. Pasteur Marc, c'est ça qu'on a dans notre cœur. On a cet enthousiasme. On a Dieu en nous qui dit ce qu'on ne sera pas capable de faire en nous-mêmes. On peut le faire par la grâce de Dieu. On peut créer une génération de bâtisseurs du royaume de Dieu. Le Webster est extraordinaire. Le dictionnaire anglais Webster dit « enthousiasme en Dieu ». Puis il y a trois définitions. Foi et croyance dans une révélation spéciale. Ce n'est pas un dictionnaire biblique, c'est Webster. Foi et croyance dans une révélation spéciale du Saint-Esprit. Fort engagement accompagné de forts sentiments. Passion, inspiration, zèle, ferveur. Une génération de Néhémie qui vibre avec un enthousiasme d'être rebâti afin de rebâtir. Et notre enthousiasme et l'enthousiasme de Néhémie était dans le fait qu'il y avait une équipe, qui était avec Dieu, mais qui n'était pas seul. Et là, il y a une clé absolument, absolument indispensable. Il est impossible de rebâtir à moins que tu fasses partie du corps. Que tu saches et que tu réalises la beauté. Il n'y a pas de surnaturel sans synergie. Il n'y a pas d'élévation sans cet élément d'équipe. Il n'y a pas d'accomplissement sans cet attachement les uns aux autres. Regardez bien Néhémie. Il a dit au chapitre 2, le verset 8 à 13, qui apparaissent à l'écran. Le roi me l'accorda. Il a été demandé une requête au roi qui lui a donné, car la bonne main de mon Dieu était avec moi. Néhémie avait la main de Dieu sur lui, mais il a besoin d'une équipe. Je peux vous dire que vous pouvez avoir une foi en Dieu, mais que isolé, loin de l'Église, loin du corps et loin de d'autres, loin de l'équipe divine, il est impossible d'être rebâti et de rebâtir. Il dit, j'avais la bonne main de Dieu sur moi, il y avait Dieu avec lui. Il est arrivé à Jérusalem, il est passé 3 jours, il est arrivé pour voir les murs qui étaient démolis. Et la Bible nous dit, puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes. Tout de suite, la première chose qui est arrivée, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent autour de lui. Il s'est mis à inspecter les murs, et la Bible nous dit qu'il s'est mis à partager sa vision avec les gens qui étaient autour. Je leur ai dit, chapitre 2, verset 17-18, qui apparaissent à l'écran. Je leur ai dit, voyez le malheur dans lequel nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons. Vous remarquez qu'il est déjà rendu au pluriel. On n'a pas commencé encore, mais il y a une équipe. On sera pas seul. Dieu est avec moi, mais c'est pas Dieu avec moi, puis moi, puis Dieu et personne d'autre. Non. Moi, Dieu et une équipe, il y a un enthousiasme en nous. Dieu est en nous tous. Levons-nous pour bâtir les murs. Rebâtissons la muraille. Et nous ne serons plus dans la honte. Je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi. Et les paroles du roi. Et ils dirent, la main de Dieu était sur lui. Il partage ce que Dieu a fait. Et là, tout le monde commence à grandir dans la foi. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y a des mots clés. Si vous lisez le chapitre 3 de Néhémie, si vous regardez par exemple au verset 2, vous allez voir des dizaines de fois cette expression apparaître. Chapitre 3, verset 2, à côté de lui. À côté de lui, bâtir les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtir aussi Zaccour, fils d'Emri. Ça continue toujours à travers tout le chapitre. Chapitre 4, à côté d'eux. Verset 4 à côté 2, verset 5 à côté 2. Regardez bien au verset 16. Derrière lui. Regardez bien au verset 30. Derrière eux. Laissez un instant. Les mots-clés de Néhémie, c'est à côté de lui, derrière lui. À côté d'eux, derrière eux. Une liste de personnes qui en eux-mêmes ne peuvent rien faire, mais parce qu'ils sont à côté de quelqu'un. Et parce qu'ils sont derrière quelqu'un. Un des plus grands apprentissages de la vie chrétienne, c'est apprendre à travailler et à œuvrer à côté d'eux. C'est ça toute la différence. Dans Acte 2, ça nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Certains pensent que c'est un pléonasme. La répétition d'une même pensée dite de deux façons différentes. Pas du tout. Parce qu'il est possible d'être dans un même lieu, mais de ne pas être tous ensemble. Il est possible d'être assis dans une salle, mais je ne suis pas à côté de quelqu'un. Je ne suis pas en train d'appuyer quelqu'un. Je ne suis pas en train d'aider quelqu'un. Un des plus grands apprentissages, c'est reconnaître que j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi. Et un des plus grands apprentissages du chrétien, c'est de reconnaître et de recevoir la révélation que nous avons besoin que tu sois à côté de nous. Quelque chose que tu contribues à l'œuvre de Dieu, que tu contribues à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur, à l'accomplissement des plans de Dieu, qu'il y a seulement toi qui peux le faire. Dites à la personne à côté de vous, dites, je ne veux pas te décourager, mais ce que je t'appelais à faire, tu n'es pas capable de pantoute. Dites ça à la personne de vous. You can't do it, this is just me. À côté de. Puis l'autre expression extraordinaire, écoutez bien, un des plus grands appels, un des plus grands apprentissages, c'est d'être à côté, en équipe. Je ne m'isole pas, je suis dans le corps, il y a une équipe. Une des choses les plus enthousiasmantes dans l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement que j'ai la main de Dieu avec moi qui est sans laquelle rien ne peut être fait, mais c'est qu'alors que la main de Dieu est sur moi, nous sommes ensemble. Il y a une équipe que Dieu élève. Quelques hommes, quelques femmes, des hommes et des femmes prêts à travailler à côté d'eux, l'apprentissage. Le plus grand apprentissage, travailler à côté d'eux. Et un des plus grands appels, derrière eux. Il faut trouver dans le texte. À côté d'eux, derrière. À côté d'eux, derrière. Un des plus grands appels, c'est l'appel à soutenir quelqu'un d'autre. Je suis derrière toi. J'étais en Afrique il y a plusieurs années, puis le missionnaire, on devrait toujours écouter les missionnaires. Le missionnaire nous a dit, si vous allez à la plage, on avait un avant-midi de congé au milieu d'une tonne de réunions à prêcher. Puis la plage était magnifique, puis il nous a amené à la plage. Puis il dit, si vous allez à la plage, ne commencez pas à aller nager au large, parce que le courant est terrible, le ressac, ça va vous ramener, vous allez vous noyer, plusieurs qui sont noyés. Mais j'étais avec Pasteur Samuel Lecomte, puis tous les deux, on était remplis de foi et de confiance. On s'est dit, c'est sûr que les autres, peut-être, pourraient avoir du trouble, mais nous autres, quand même, on sait nager, nous sommes des athlètes hors pair. Alors, on s'est mis à nager au large. Et après quelques minutes, on était au large tous les deux. Et Pasteur Sam nous a raconté après, Pasteur Sam est costaud, est en très, très bonne forme. Puis il est en train de nager au large. Puis il dit qu'à un moment donné, il s'est senti très fatigué. Il s'est tourné vers le rivage. Vous voyez le drapeau là-bas. Il y avait un parasol qui était sur la plage. Il a regardé le parasol. Puis il se trouvait très loin. Fait qu'il s'est mis à nager de toutes ses forces, le plus longtemps possible, la tête dans l'eau. Là, il a fait un sprint pour s'avancer du parasol. Et alors qu'il nageait de toutes ses forces, il reculait. Il s'éloignait du parasol, de plus en plus. Moi, j'étais sur le dos, je faisais la planche, je faisais des ballons, j'avais du fun. Puis à un moment donné, j'entends, puis la mer est forte, à un moment donné, j'entends, « Claude! 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 » Je regarde, et j'ai jamais vu, parce que c'est mon père spirituel, j'ai toujours vu à travers toutes les tempêtes, être confiant et fort, il avait peur. Il avait peur, son visage, il se sentait se noyer. Et puis là, à un moment donné, j'ai vu, et puis, je me noie. Bon, je vous dis, je me noie, c'est la version francophone, parce que ça me disait, je me noie! Je me noie! I'm going down. Tout ce que j'ai fait, je me suis placé derrière lui. On est tous appelés à travailler les uns à côté des autres. Mais des moments dans la vie, des moments dans l'œuvre de Dieu, où on a besoin que quelqu'un se place derrière nous. Est-ce que vous comprenez que si je m'avais mis à côté de lui, ce n'était pas suffisant à ce moment-ci. Est-ce que vous êtes d'accord? Je me mets à côté et je dis, bon, mais je suis avec vous. On coule ensemble. Non, je vais vous dire un des plus grands appels que vous pouvez. J'aimerais dire à tous les parents qui sont ici, un des plus grands appels qu'on peut avoir, c'est de se mettre derrière nos enfants et encourager, soutenir, pousser. Un des plus grands appels qu'un mari peut avoir pour sa femme et sa femme envers son mari, c'est « Je suis derrière toi. » Derrière toi. Je suis pas juste à côté. Je suis derrière toi. Un des plus grands appels qu'on peut avoir, c'est les uns envers les autres, dans des moments dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie et de qui est haut, qui est bas, mais il y a des moments dans la vie, des moments dans l'œuvre de Dieu où il faut se mettre derrière quelqu'un. C'est pas très raffiné, ce que je vais vous dire, mais je me suis mis derrière lui, puis je me suis mis à pousser. Je poussais tout ce que je pouvais. Je pognais n'importe ce que je pouvais, puis je poussais. Pousse, derrière, pousse, puis là, clac, 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 il pataugeait, puis pousse, jusqu'à temps que son pied touche à terre, le mien touche à terre, puis là, je me suis mis à côté de lui. J'étais derrière, puis là, je suis à côté, puis là, on a marché jusqu'au rivage ensemble. J'aimerais vous déclarer que j'aimerais élever, demander à Dieu de mettre dans vos cœurs cet appel à être des ennemis les uns pour les autres. Des fois, je suis à côté, puis si tu tombes, on va me mettre derrière toi, à côté de toi, jusqu'à temps qu'on bâtisse ensemble le royaume de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple. Néhémie chapitre 4, verset 19 et 20. J'arrive à la fin du message. Néhémie chapitre 4, verset 19 et 20. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. L'ouvrage est considérable et étendu. Mais nous sommes dispersés sur la muraille. Éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez, et notre Dieu combattra pour vous. J'aimerais vous dire ce matin, ici, à l'église Nouvelle Vie, qu'il y a une trompette qui retentit. Est-ce que vous l'entendez? Yeah! Bon, j'avais demandé à Pasteur Mark de faire la trompette, mais il n'a pas voulu. Il y a une trompette dans ce lieu, est-ce que vous le retentiez? Vous l'entendez, la trompette de Dieu qui dit, il y a trop d'espace entre vous, vous êtes trop dispersés sur la muraille, le temps est venu de venir un à côté de l'autre, un derrière l'autre, et alors qu'on se rapproche ensemble, Dieu combattra avec nous. Dieu, oh, applaudissez ensemble la puissance qu'il y a lorsque nous venons à côté. Lorsque nous venons à côté les uns des autres, lorsque nous venons derrière les uns les autres, lorsque nous disons, Seigneur, je saisis la première clé d'espoir et d'engagement. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Et Seigneur, me voici ce matin. Et par ta grâce, par ton onction, par ta puissance, je refuse de m'isoler. Je refuse de m'éloigner. Je refuse d'être à part de ce que tu fais. Je veux me placer à côté. Je veux accepter l'appel de soutenir, L'appel d'aider et d'être aidé. Je vais vous demander quelque chose ce matin. Je vais vous demander de pencher la tête. J'avais tout un... Je vais demander pardon à ceux qui travaillent avec moi au message pendant des heures. Il y a toute une portion de peut-être 20, 25 versets, toutes sortes de choses qui se préparaient vers la fin du message. Mais je ressens puissamment de la part de Dieu que Dieu vous appelle, t'appelle toi ce matin à la génération Néhémie. Et pendant que je demande à inviter Luc Dumont à s'approcher, parce que j'aimerais qu'on termine en chantant « Tu es merveilleux, tu es merveilleux, je me blottis dans le creux de tes bras. » La voix de Dieu retentit dans ce lieu ce matin et appelle des centaines d'entre vous à la génération Néhémie. Pendant que Luc va commencer à jouer doucement à la guitare ce chant, je vais appeler des gens qui seraient avec nous pour les premières fois. Je ne vous ferai pas venir ici à l'avant. Mais je sens qu'il y a plusieurs personnes qui vont donner leur vie au Seigneur ce matin. Vous êtes ici dans ce lieu et Dieu vous appelle. J'aimerais vous dire que le Seigneur peut et veut te rebâtir, qu'il est le grand consolateur et que ce matin, tu peux entrer dans ce pas d'espoir et dire, me voici Seigneur, puis je veux reconnaître que j'ai besoin de toi. Il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être rebâties. Et Jésus va venir dans ton cœur, va venir dans ta vie et il est capable de te rebâtir. Et il va te rebâtir afin de faire de toi quelqu'un qui va rebâtir d'autres. Pendant que Luc va commencer à jouer doucement à la guitare, tu es merveilleux, tu es merveilleux, et que les musiciens vont l'appuyer, j'aimerais faire un appel ce matin à chacun d'entre vous, chaque personne qui sera avec nous. Peut-être que tu as grandi dans l'Église, jeune fille, jeune homme, tu as grandi dans l'Église. Tes parents sont des chrétiens qui aiment Dieu, et toi aussi, tu as une connaissance, un respect, une révérence pour Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de méprisant, tu n'es pas quelqu'un qui est contre. Ce matin, du 1er mai 2005, Dieu t'appelle, toi, à une décision. Comme chaque nom qu'il y avait dans le chapitre 3, il appelle ton nom à toi. Il appelle ton nom à toi. À dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux reconnaître mon besoin de toi. Peut-être que tu es ici et tu t'es éloigné de Dieu. Et ce matin, il faut absolument que tu reviennes à lui. Peut-être que tu es ici et un ami t'a invité. Il y a des ondes, des sphères, des portions de ta vie qui sont en ruine. Ce matin, Dieu veut te rebâtir. Alors qu'il va te rebâtir, tu vas pouvoir rebâtir ta vie, rebâtir ton couple. Il y a un enthousiasme pour la vie, un goût de vivre, un goût pour la vie qui vient seulement lorsque Dieu vit en nous. Parce que lorsque Dieu vit en nous, il y a quelque chose qui est au-delà de nous. De joie, de paix, de confiance, d'espoir, de capacité de rebondir, de se relever. Confiance pour l'avenir qui nous remplit. C'est Dieu en nous. C'est l'enthousiasme divin que Dieu donne à un homme ou à une femme, un être humain, un jeune homme, une jeune fille. Alors, pendant que toutes les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, j'aimerais demander ce matin, si vous êtes ici, vous étiez éloigné de Dieu, vous avez besoin de revenir à lui, ou tu as toujours assisté à l'Église, participé à l'Église, mais ce matin, c'est ton matin pour te lever et dire, me voici. Ou si vous êtes ici ce matin et vous dites, il y a quelque chose qui est démoli en moi, j'ai besoin de venir à lui afin d'être rebâti. J'aimerais vous demander que vous soyez ici pour la première fois, que vous ayez grandi dans l'Église, que vous soyez éloigné et que vous êtes ici ce matin. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut rebâtir en vous. Alors je vais vous demander si vous êtes ici ce matin et vous dites, c'est moi. Je veux tendre une main vers Dieu comme il y a tous ces noms dans le livre de Néhémie. Que ce matin, Dieu regarde à cette église, aux milliers qui sont là et qui connaissent tout de moi, ils connaissent toute ma vie, ils m'appellent moi. Je veux répondre à son appel ce matin. Je veux répondre à l'appel de Dieu. Je veux dire, me voici Seigneur, rebâtis-moi. Me voici Seigneur, je reconnais mon besoin de toi. Me voici Seigneur, je réponds à ton appel. Si c'est vous ce matin, si vous avez ce désir de venir à lui pour la première fois, de le reconnaître ce matin, personnellement, vous-même, chacun devant sa maison, chacun pour lui-même. Si ce matin, vous étiez éloigné, il faut que vous reveniez à lui. Et c'est votre moment. J'aimerais vous demander de lever votre main là où vous êtes. Dites, me voici, Seigneur. Juste levez votre main. Alors que Dieu dit, gens qui lèvent leur main, partout à travers ce lieu. Juste levez votre main, dites, me voici, Seigneur. Il faut que tu me rebâtisses. Je veux revenir à toi. Je ne comprends pas tout ce qui a été dit. Je dis les premières fois, mais j'ai besoin de Dieu. Des gens qui lèvent leur main partout dans cette salle. Partout dans cette salle, des gens qui lèvent leurs mains. Voici ce que nous allons faire. Vous pouvez baisser vos mains, mais Je veux vous dire que c'est le commencement de quelque chose de nouveau et d'éternel pour toi. Je vais demander tout simplement à tous ceux qui ont levé leurs mains, je ne veux pas vous inviter à vous avancer ici à l'avant, mais j'aimerais prier avec vous. Tous ceux qui ont levé leurs mains parce que tu veux ce matin prendre une décision pour Dieu, pour toi-même. Tu veux être compté parmi ceux qui appartiennent à la génération Néhémie, qui vont être rebâtis par Dieu afin de rebâtir d'autres. Tu veux recevoir le Seigneur dans ta vie, ou tu veux revenir à lui, ou tu veux exprimer ce matin quelque chose qui est démonie en moi. Je veux être rebâti par Dieu. Vous avez levé votre main, même si vous n'avez pas levé votre main. Tous ceux qui ont levé vos mains, Dieu a vu vos cœurs, vos vies, c'est tout de vous. Ou même si vous n'avez pas levé votre main, j'aimerais vous demander, pendant que tout le monde prie intensément, parce que c'est le plus grand de tous les miracles, dans un instant, j'aimerais demander à tous ceux qui ont levé la main, simplement de se lever à leur place. Et s'il y a quelqu'un près de vous qui a levé sa main ou qui aurait dû lever sa main, avec douceur et amour, j'aimerais que vous lui disiez, si tu veux, je m'avance, je me lève avec toi. Si tu veux, je vais prier avec toi. Si vous êtes ici, vous avez levé votre main. Vous n'avez pas levé votre main, mais vous voulez revenir à lui. Vous voulez reconnaître votre besoin de lui. Vous voulez dire, Seigneur, viens rebâtir ce qui est démonié en moi. Vous avez levé votre main, vous ne l'avez pas encore levé, c'est votre moment. Dieu a vu vos mains, il a vu vos cœurs, il a tout vu de vous. J'aimerais vous demander de vous lever à votre place là où vous êtes. Juste de vous lever et dire, me voici, Seigneur. Juste de vous lever partout à travers ce lieu. Et dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, partout dans ce lieu. Levez-vous pour dire, me voici, Seigneur. Des gens qui sont ici pour la première fois, qui se lèvent et qui disent, je ne comprends pas tout ce qui a été dit, mais je comprends ceci. Si je viens à Dieu, je reconnais mon besoin de lui, il va me rebâtir. Et alors qu'il va me rebâtir, je vais pouvoir rebâtir d'autres. Il y a de l'espoir pour mon couple, pour mon mariage, pour mon avenir, pour un changement de vie. Si je laisse Dieu me rebâtir, juste vous lever partout à travers ce lieu. J'aimerais demander maintenant à tous les Néhémies qui sont dans ce lieu, quelque chose de spirituel qui prend place dans ce lieu ce matin. Au nom de Jésus, Dieu va accomplir ce qu'il veut faire. Seigneur, maintenant, fortifie pour accomplir ta volonté et ton appel. Dans le nom de Jésus. J'aimerais demander maintenant à tous les croyants qui sont dans ce lieu, tous les chrétiens qui sont ici, d'ouvrir vos yeux un moment et de regarder à tous ces Néhémies qui sont autour de vous, toutes ces personnes qui se sont levées. J'aimerais qu'on se lève tous et qu'on puisse aller entourer tous ceux qui se sont levés. Homme avec homme, femme avec femme, les parents avec un jeune, les amis avec un ami. Alors que vous allez entourer ces gens, j'aimerais vous demander de commencer à prier pour eux, partout à travers Dieu. Juste de commencer à prier que Dieu puisse maintenant les rebâtir dans le nom de Jésus. Commencez à prier maintenant que Dieu puisse les rebâtir. Commencez à prier, levez vos voix ensemble. Seigneur, maintenant nous prions pour un miracle dans la vie de tous ceux qui ont reconnu leurs besoins devant toi. Nous prions pour un miracle dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui ont reconnu leurs besoins devant toi. Nous prions pour une action divine. Nous prions, Seigneur, pour que tu agisses. Nous prions, Seigneur, pour que tu viennes maintenant profondément dans leur cœur et que ton esprit témoigne à leur esprit qu'ils peuvent être rebâtis, que leur vie peut être rebâtie, que leur mariage peut être rebâti, que leurs émotions peuvent être rebâties, que leur avenir peut être rebâti. Seigneur, je prie que ta puissance envahisse ce lieu maintenant, ce matin. S'il y a quelqu'un qui est pris par la drogue, s'il y a quelqu'un qui a été abusé dans son enfance, s'il y a quelqu'un qui a touché à des choses qui l'ont marqué, qui l'ont traumatisé ou qui ont laissé des chaînes sur sa vie, ce matin, par la puissance de Dieu, le grand consolateur est dans ce lieu pour bâtir. Il est là pour consoler. Il est là pour relever. Il est là pour délivrer. Et je te prie de faire une œuvre surnaturelle, ô Dieu. Je te prie de libérer des vies. Je te prie d'enlever, Seigneur, des peurs, des angoisses. S'il y a quelqu'un qui a combattu dans ces années avec une pensée de suicide, nous lions à jamais cet esprit. S'il y a quelqu'un qui a combattu avec des pensées de tout arrêter, de tout finir, cet esprit est lié maintenant. Je prie pour un enthousiasme de Dieu. Dieu qui envahit la personne. Et la personne, à partir de ce moment-là, va avoir confiance que Dieu est avec elle. Je prie pour tous les jeunes hommes et les jeunes filles dont les parents sont croyants et qui n'ont pas, eux, qui ont toutes sortes de choses à lesquelles ils sont confrontés, de doutes et de peurs et de scepticisme. Je prie pour une conviction du Saint-Esprit. Je prie pour une conviction du Saint-Esprit. Je prie maintenant que le grand consolateur envahisse des cœurs. Je prie que le grand consolateur envahisse des cœurs dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que toute l'Église, nous puissions prier ensemble, que vous allez répéter avec moi et prier cette prière avec ceux qui se sont levés maintenant, nous qui les appuyons. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble en disant, « Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais mon besoin de toi. Je déclare par la foi que tu vas me rebâtir. Tu peux me consoler. Tu vas me délivrer. Je reçois, Seigneur, par la foi, l'espoir de ta promesse. Les choses vont changer dans ma vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que ton esprit témoigne maintenant à leur esprit qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils peuvent et vont être rebâtis par toi. Et Seigneur, il va y avoir un miracle qui va prendre place en eux. Un miracle de Dieu qui va s'accomplir en eux. Dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, maintenant, nous déclarons par la foi que quelque chose est arrivé le 1er mai 2005. Et nous recevons l'espoir que le Consolateur nous donne. Et que ceux qui le croient applaudissent parce qu'il n'y a rien de plus grand, rien de plus important, rien de plus surnaturel. Alléluia! Alléluia. Demeurez debout un instant. Vraiment à cœur de terminer avec un passage. La dernière diapo. Où nous lisons que Néhémie a dit, nous étions dispersés sur la muraille. Et au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, et notre Dieu combattra pour vous. Je crois que vous allez vous en souvenir dans l'avenir. Dans la dernière minute de cette assemblée ce matin, je veux faire un moment solennel. Un moment où tous ceux qui le veulent disent, j'accepte l'appel de Néhémie. J'accepte de me placer à côté de et derrière toi. J'accepte de prendre ma place dans l'œuvre de Dieu. Je suis enthousiaste parce que nous sommes une grande équipe. Je crois que Dieu nous a réunis ensemble pour faire une œuvre extraordinaire ensemble et bâtir et rebâtir le royaume de Dieu. En ce moment solennel du 1er mai 2005, est-ce que vous pouvez prendre la main de la personne à côté de vous et à travers les allées pour dire « Je suis à côté de toi. » Dire « Je suis derrière toi. Je suis avec toi. J'accepte mon appel, Seigneur. Je refuse d'être isolé. Je refuse d'être à part d'eux. Je suis enthousiaste parce que la main de Dieu est sur moi, mais je suis aussi enthousiaste parce qu'il y a une équipe. » Combien sont reconnaissants pour l'équipe de Dieu ce matin? Il y a une équipe que Dieu a rassemblée. Il y a une équipe que Dieu... Que vous puissiez dire dans vos cœurs, « Je suis avec vous. » Que vous puissiez renouveler votre appel de dire, « faut que je communique à mes enfants, je suis avec toi. Je suis derrière toi. Faut que je dise à mon époux, je suis avec toi. Je suis derrière toi. Faut que je le dise à mon époux. Je veux dire à mon église, je suis avec toi. Je suis derrière toi. Je suis avec vous. Et on va bâtir le royaume ensemble. Je veux dire à les gens, tous ceux qui sont ici, qui sont appelés à l'œuvre de Dieu, ceux qui ont un appel sur leur vie, je veux vous dire en ce 1er mai 2005, nous sommes avec vous. Nous sommes derrière vous. Nous sommes à côté de vous. Je veux dire à tous ceux qui ont à cœur de bâtir les murailles de l'œuvre de Dieu. Ensemble, avec l'équipe que Dieu réunit, rien ne va pouvoir nous arrêter. La puissance de Dieu va être sur nous. Je veux dire, Pasteur Mark, je suis avec toi. Je suis derrière toi. Je veux dire à chaque ministère de cette Église, je suis avec vous, je suis derrière vous. Et ceux qui ont ce même cœur, cette même vision, voulez-vous tendre vos mains avec moi et dire, nous voici Seigneur, nous voici Seigneur, tu es merveilleux. Nous sommes à côté les uns des autres, derrière les uns des autres. Et ensemble, nous prenons notre place dans la génération Néhémie, dans le nom de Jésus. Tu es merveilleux, Pasteur Luc. Alléluia.
Tu es merveilleux.
Chantez-le solennellement.
Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu.
Oh, oh, oh.
Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de
peuple, Seigneur. Unis ce peuple pour un moment comme celui-ci. À côté les uns des autres. Derrière les uns des autres.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.